Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules, c'est avec aujourd'hui Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, Mourad Boudjelal, qui est éditeur de bande dessinée. Puis nous sommes avec Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports. Que se passe-t-il chez les Insoumis? Eh bien, vous vous soumettez ou bien vous êtes suspendu.
RMC, les grandes gueules.
C'est arrivé à la députée Raquel Garrido, suspendue de ses fonctions d'oratrice pour 4 mois. Elle était invitée ce matin d'RMC, RMC Story, d'Apolline de Malherbe.
Aujourd'hui, là au moment où nous en sommes, d'abord, il faut obtenir de la transparence. La transparence. Je souhaite que le bureau dise publiquement, ne serait-ce qu'à mes électeurs, qui ont droit, pourquoi je suis sanctionnée. J'ai entendu depuis hier tout et n'importe quoi. J'ai entendu mon collègue Antoine Léaumont dire que j'avais violé 10 décisions collectives. Lesquelles, s'il vous plaît? J'ai entendu ce matin mon collègue Paul Vanier dire que j'avais menti 10 fois. Quel mensonge! S'il vous plaît, de la transparence. Nous devons incarner une certaine forme d'éthique, de respect du pouvoir populaire.
Raquel Garrido, elle supporte mal sa suspension d'oratrice de la France insoumise. Alors, peut-on être, parce qu'elle a critiqué ouvertement, peut-on être insoumis chez les insoumis? C'est la question que l'on pose.
Alors, on peut comprendre la colère de Raquel Garrido, parce que si je comprends bien, selon leur grille de sanctions, il est aussi grave de critiquer le chef que de gifler sa femme, puisque Raquel Garrido est copée de 4 mois de sanctions contre... c'est comme Adrien Quatennens, qui avait pris également 4 mois de sanctions. Et puis aussi, un 2 poids 2 mesures, et là aussi, on peut comprendre notamment ce que disait Clémentine Autain. Par exemple, la députée Sophia Chikirou, qui est la femme du chef, est épargnée, alors que la justice enquête en ce moment sur sa boîte de com. Elle pourrait même peut-être être mise en examen dans les prochains jours pour escroquerie aggravée. On lui reproche d'avoir peut-être surfacturé aux insoumis des prestations avec des marges donc très supérieures aux autres professionnels du secteur. Mais là, il se passe rien. Quand Daniel Obono dit n'importe quoi dans un communiqué à propos du Hamas, là non plus, il se passe rien. Donc, 2 poids 2 mesures. Donc, la question, effectivement, elle est posée. Est-ce qu'on peut être insoumis chez les insoumis aujourd'hui?
Alors, la réponse est non.
Non.
D'abord parce que la révolution dévore toujours ses enfants et les révolutionnaires que sont soi-disant ces insoumis devraient le savoir. Et deuxièmement, et c'est peut-être le point le plus frustrant quand on regarde un peu les insoumis en général, c'est que ils ont pour le coup à leur tête Jean-Luc Mélenchon, qui est probablement un des mecs les plus brillants intellectuellement de la classe politique actuelle, mais qui est, et d'ailleurs son dernier bouquin.
C'est-à-dire le niveau.
Non, mais parce que je pense qu'il y a.
Faites mieux. Il est venu d'ailleurs.
Non, mais je pense qu'il faudrait dire qui fut plutôt que.
Non, mais justement. Il aime bien Mélenchon.
Non, mais je pense que pour une raison, c'est que intellectuellement, et d'ailleurs, lis son livre. Parce que moi, je suis en désaccord avec beaucoup de ce qu'il dit dans son livre. Mais intellectuellement, c'est un type qui a une pensée, qui est un bon théoricien politique. Mais je pense que c'est un bon théoricien qui est devenu un praticien cynique et un peu dégueulasse. Et qu'il a sous lui. Et qu'il a sous lui des gens qui déjà ne sont pas de son niveau, qui sont pour le coup. Des praticiens de la division et qui évidemment tentent de fracturer le pays en soufflant sur les braises des communautés en ce moment qui
oui, mais là ils se fracturent entre eux.
C'est là et évidemment qui maintenant, et c'est le un peu le comique de l'histoire, se fracture entre eux et purge, parce que le propre de ce type de parti très autoritaire, très 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 vertical, c'est effectivement de ne jamais supporter la dissension interne et de purger ceux qui sont en désaccord
même
avec,
si c'est
avec le chef.
Parce que Raquel Garrido quand même rappeler que elle était le compagnon de route de Mélenchon depuis le début, parce que autant Ruffin, Clémentine Autain sont pas des mélenchonistes pur jus, mais la France insoumise, Corbière, Garrido, ils ont été au parti de gauche, ces gens qui ont quitté le parti socialiste comme Mélenchon, qui ont suivi Mélenchon, enfin qui ont fait tous les qui sont de tous les combats hein.
Mais tu vois, en dehors du fait que c'est un spectacle jouissif et hyper drôle.
Pourquoi?
Parce que j'ai toujours considéré.
T'as une sexualité bizarre, toi.
J'ai toujours considéré que cette alliance qui leur a permis d'avoir autant de députés allait exploser en vol. Maintenant, c'est le parti même qui est en train d'exploser en vol. Enfin, moi, l'analyse que j'en fais, c'est que les jeunes, les Garrido, Corbière, ils en peuvent plus du vieux, quoi. C'est comme dans tous les partis, c'est comme dans chaque assos communal, c'est comme dans tous les comités des fêtes. Le vieux, il est aux manettes, il cale le truc, il y a que moi qui sais faire, il y a que moi qui peux faire. Et les jeunes, ils en peuvent plus, ils les ont comme ça, quoi. Et à un moment donné, ils ont qu'une envie, c'est de le dégager pour exister eux-mêmes, quoi. Et après, je pense quand même que c'est plus facile de tenir dans un parti vertical des gens qui ont été formés à la milice ou dans l'armée que des révolutions. Quoi, parce que des révolutionnaires, par définition, ils veulent toujours tuer le chef, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, ce parti, mais les autres aussi, s'ils sont pas capables de dégager les vieux, là.
Donc ça a toujours existé, tu dis.
Qui tiennent les manettes,
il y a personne derrière.
C'est les partis qui vont crever.
En termes de leadership, il y a personne derrière. Le meilleur.
Ça, j'écoute
la même chose au comité des fêtes dans ma commune.
C'est l'argument des vieux. Ah bon, il y a personne derrière. Je suis le seul.
87 ans.
Je suis le plus intelligent, etc.
Mais rappelle-toi d'abord, il a eu un successeur. C'était Delapierre qui est mort et il a eu Quatennens. Politiquement. Et Quatennens,
c'est qu'une plombée. Mais aujourd'hui, t'as des Ruffin, etc. Enfin, le problème, c'est que si tu laisses pas la place, les autres ne peuvent pas l'utiliser.
Ouais, je pense quand même que quelqu'un comme Rachel Garrido, elle souffre de ça. Et même si tu disais, Olivier, qu'elle était historique dès la première heure derrière Mélenchon, à un moment donné, elle a envie de voler.
C'est ce qu'elle dit, il devrait prendre sa retraite, il devrait avoir un rôle, je sais pas, de consultant.
Non, mais c'est plus profond, c'est une fracture idéologique aussi qu'il y a au sein des insoumis aujourd'hui.
Ça, c'est plutôt, effectivement, la frange. Il y a une frange ruffiniste là, qui veut effectivement, qui devient un peu social-démocrate, qui veut gouverner. Mais ça, c'est vrai, et c'est préexistant depuis assez longtemps. Oui. Après, je pense que dans le mélenchonisme chimiquement pur, Mélenchon est toujours meilleur que les autres. Hein.
Mourad Boudjelal,
tout seul. Aujourd'hui, tout seul.
Mourad. Je pense que Mélenchon est en fin de vie politique. Bien sûr, je pense qu'il s'est suicidé le 7 octobre. parce que lui qui avait une voix qui portait dans certaines communautés, au lieu d'être rassembleur, il les a plutôt opposés. Il a justifié l'injustifiable. Et ça, il s'en remettra pas. Et puis, comme il est en fin de vie politique, quand on arrive en fin de vie politique, la seule façon d'essayer de préserver son pouvoir, c'est la sanction. Pour montrer que c'est encore lui le patron. Donc, il sanctionne pour montrer je suis encore le patron et je peux sanctionner. Voilà. Et moi, ça me fait toujours penser à la chanson d'Alain Chamfort, Bon baiser de Russie. Suis la ligne du parti. Et la NUPES, c'est « suit la ligne du parti ». Et la ligne, c'est Mélenchon, pour l'instant, qui la donne. Et tout le monde doit suivre derrière. Voilà, donc moi, je pense qu'il y a eu des propos à la NUPES qui auraient mérité beaucoup plus de sanctions. Et ça n'a pas été le cas. Voilà, et pour moi, aujourd'hui, il s'est suicidé. On a assisté à son suicide en direct ça, le 7 ou 8 octobre, je ne sais plus, quand il a fait sa déclaration.
Moi, je suis pas aussi définitif que toi, parce qu'on a, et je ne suis pas un soutien de
Jean-Luc Mélenchon. Je suis d'accord avec toi, il est brillant intellectuel.
Mais on a déjà dit ça au moment de La République, c'est moi. On a déjà dit, au milieu du quinquennat précédent, Mélenchon est mort. Mélenchon, il fait 22% en 2022. Donc là, on dit Mélenchon est mort.
C'est une bête
de
campagne.
Mais c'est une bête politique, c'est une bête de campagne.
Oui, c'est vrai.
Et rendez-vous en 2027.
Moi, je suis pas du tout sûr que Mélenchon soit mort. Il a un côté quand même... Moi, je trouve qu'il se Jean-Marie Le Penise, si je puisse utiliser cette expression.
Le vieux tonton pénible au bout de la tête.
Il devient celui qui devient un peu gênant, qui dit des choses toujours très tendancieuses. Alors, peut-être que c'est effectivement une stratégie pour réunir tous les antisystèmes. Et dans les antisystèmes, tu auras des antisémites, tu auras des anticapitalistes, des machins, des complotistes. Et ça fait peut-être un petit électorat. À mon avis, tu viens pas président de la République comme ça. Donc, je vois. Alors, peut-être ça lui permet de continuer à exister. Mais si son ambition, et c'était comme son ambition, c'était de devenir un jour président de la République,
il
faut quand même passer le premier tour sur une base quand même qui me paraît un peu réduite.
C'est que ça n'arrivera pas. Et d'ailleurs, le seul schéma.
Donc là, finalement, tu as une certitude. Il y a une demi-minute, tu disais le contraire.
Je te rappelle qu'il
est au second tour.
Moi, je pense que, un, il sera candidat et deux, qu'il sera très haut. Et qu'il fera une excellente campagne. Il fera une excellente campagne comme d'habitude. Et deux, je pense qu'il n'y a aucun schéma dans lequel Jean-Luc Mélenchon gagne.
Moi, je prends le pari qu'il
sera
pas
candidat. Face à Marine Le Pen, il perd. Et face à n'importe qui de modéré, il perd. Donc, je pense qu'il ne sera jamais président de la République. Ça, c'est vrai.
On va en parler avec Guillaume, qui nous appelle de Seine-Saint-Denis. Bonjour, Guillaume.
Ces derniers temps que...
Bonjour, Guillaume.
Bonjour à vous.
Bienvenue, Guillaume. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut être insoumis chez les insoumis, alors?
Moi, je suis un peu embêté, parce qu'il y a M. Quatennens, qui a pris 4 mois pour avoir été condamné pour violence conjugale. Et donc on se retrouve avec Raquel Garrido qui, je sais pas ce qu'elle a fait, elle prend la même peine et je vois pas pourquoi en fait. Et c'est vachement, le comparatif est vachement embêtant quoi. C'est-à-dire que quelqu'un qui tape sur sa femme, il a pas le droit de parler pendant 4 mois et une femme qui est pas d'accord, et ben elle prend 4 mois. C'est en plus, je pense que c'est fait ça pour qu'on fasse un parallèle un peu avec ça. C'est toujours dans la, un peu dans la provocation, dans le histoire de faire le clash, histoire qu'on en parle. Ouais. Quoi. Donc du coup, je me retrouve avec vous à en parler. Voilà, il y a des choses vachement, vachement plus graves qui se passent. Et puis finalement, ouais, bah, on parle de Madame Garrido qui
oui, mais le droit de parler. Déjà, le plus surprenant, c'est qu'elle soit députée, quoi. Déjà, pour commencer par ça. Quoi.
Ah bah ça, c'est le choix des électeurs, ça, mon cher,
Angers, derrière la vie des électeurs.
Moi, j'habite à Noisy. J'ai un député LFI qui s'appelle Monsieur Thomas Porte, qui, est, ouais, qui a des comment dire, qui est un peu dans ce même moment-là.
Ouais, il faut rappeler que Thomas Porte, c'est le député qu'on avait vu avec le pied posé sur un ballon qui était la tête d'Olivier Dussopt, le ministre de la fonction publique. Allez-y, Guillaume.
Et qui est aussi un placement vachement anti-police. Et c'est toujours dans des idéologies très extrêmes, très,
ouais,
très
c'est le problème de LFI, être de gauche et pas être antisocial, quoi. Comme dirait Trust,
ouais,
et Bernie Bonvoisin.
De gauche, est-ce que c'est être anti? Parce qu'au bout d'un moment, on est anti-flic, on est anti-gouvernement.
C'est pas ça être de gauche.
On est antisémite, on est, ça s'arrête tout au bout d'un moment. Et puis quand on n'est pas d'accord, c'est-à-dire que, en gros, là, je pense que ce que Garrido n'est pas d'accord, c'est que, la positionnement vis-à-vis de la guerre en Israël et en Palestine, elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Et on la fout dehors, et puis du coup, on en parle, et puis ça continue.
Il y a une ligne. Il y a une ligne dans le parti qu'il faut suivre.
Ouais, mais voilà. Bon, au bout d'un moment, c'est bien la ligne. Mais
est-ce que vous avez compris, surtout. Pardon, mais Guillaume, est-ce que vous avez compris? Moi, je suis comme Garrido.
Pourquoi
Garrido a-t-elle été sanctionnée?
Personne n'a compris, je crois, Garrido. Alors,
elle avait contesté, effectivement, le dépositionnement de la direction. Mais voilà, donc en fait, on ne comprend pas bien pourquoi elle a été sanctionnée.
Elle a contesté aussi publiquement. Et elle a,
c'est qu'elle dérange.
Ça parentait à du dénigrement, c'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs.
C'était pas non plus une violence absolue.
Non, on est d'accord.
Je pense qu'il y a un chef qui est,
on est loin des
chef qui est là et qui est pas. Quand on lui dit pas, ce qu'il veut, c'est vachement
extrême. Après, il y a d'autres partis au Rassemblement National. Si vous dites Marine Le Pen est nulle et Bardella dit n'importe quoi, vous ferez pas long feu non plus.
Raquel Garrido. Non,
bien sûr, mais elle a émis des. Non, mais vous dites. Le problème, c'est que soit on a eu deux partis. On a eu le Parti socialiste où c'était le foutoir organisé. Il y avait des courants. Quand François Hollande était président, il y avait des frondeurs.
On comptait les frondeurs à l'Assemblée nationale pour savoir si la loi passait.
Il y a même eu une motion de censure votée par ses propres députés. C'est assez baroque et inédit sous la Ve République. Donc ça, les Français, ils ont été dégoûtés de ça. Et donc derrière, on a Emmanuel Macron, mais c'est très vertical. Il n'y a pas de frondeurs chez Emmanuel Macron. C'est lui qui décide avec Alexis Kohler.
Je pense qu'à l'Assemblée, il y en a quelques-uns qui votent pas forcément pour ce qu'ils pensent.
Un peu, là. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Et finalement, on trouvait qu'après après Hollande, Macron, c'était bien. Chez le Rassemblement National, il n'y a pas de frondeur. Et donc, chez les filles, il n'y a pas de frondeur non plus. Il y a deux
peut-être
modèles.
Peut-être que chez les filles, peut-être que c'est qu'un prétexte, là, ce qu'on lui reproche.
C'est le foutoir.
À Garrido, ce qu'on lui reproche, là, aujourd'hui, on a bien tous compris que c'était qu'un prétexte. Je pense que depuis plusieurs semaines, elle doit exprimer des idées en interne qui déplaisent au chef. Fais pas virer 4 mois sur ces allégations.
Il y a une guerre de
succession. Même elle n'est pas capable de dire ce que c'est.
Enfin, tout ça, je crois c'est dans un contexte de guerre de succession.
Je pense que le mal, il est plus profond, mais il est invisible pour
alors,
nous.
Alors, attends, je voudrais qu'on écoute. Je remercie Guillaume d'avoir été avec nous. C'est Maxime qui veut donner son avis, qui nous appelle de Haute-Savoie. Bonjour, Maxime.
Bonjour, les GG.
Bonjour, Maxime. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors, est-ce qu'on peut être insoumis chez les insoumis?
Alors, bon, d'abord, je dois quand même vous avouer que ça me fait doucement rigoler de voir Olivier Truchot défendre Madame Garrido. Je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il défendra quelqu'un de LFI.
C'est la dernière. Plaisanté. Raquel Garrido est souvent vu dans les grandes gueules. On l'adore.
Oui, mais Jean-Luc Mélenchon vient aussi dans votre.
Et on l'adore aussi, bien souvent.
Autant que vous lui crachez pas dessus, vous l'enterrez tous les jours.
Bah, c'est pas vrai. La dernière fois, il est venu, il est resté une heure dans les grandes gueules.
s'il vous plaît. Je vous écoute depuis plus de 10 ans et vous êtes devenu une officine anti-gauche, anti-LFI. Vous tapez tous les jours dessus. Même si un chien, un chien a chié sur la route, c'est de la faute à Mélenchon. Ouais. Donc, s'il vous plaît.
Et encore, vous ne voyez pas
Mélenchon. Revenons à Garrido. Moi, je pars d'un principe, c'est que oui, on peut être insoumis chez les insoumis. Pourquoi ? Parce qu'un député doit d'abord rendre des comptes à ses électeurs et non pas à son parti. Mais ce qui me fait marrer, c'est que quand c'était chez LR qu'il y avait des gens comme Madame Garrido, vous les appeliez comment ? Des frondeurs. D'accord ? Et donc le frondeur, c'était pas un qualificatif gentil dans votre bouche, sympathique, etc. Dans le PS, pareil. Il y en a un qui levait la tête. Voilà. Par contre, quand on a eu l'époque Sarkozy, alors là, pour vous, il était inadmissible de ne pas avoir le doigt sur la couture, parce que je pense que pire que Mélenchon, c'était bien Nicolas Sarkozy.
Je comprends pas ce que vous dites, en fait.
Comment ça vous comprenez pas?
Mais Maxime, je viens de dire exactement l'inverse. Je viens de dire que faut savoir ce qu'on veut. On a reproché à François Hollande de pas avoir su tenir ses troupes. Il y avait même des députés socialistes qui avaient voté une motion de censure contre le propre gouvernement socialiste. C'était quand même assez baroque. Et effectivement, je pense que le succès d'Emmanuel Macron, c'est en partie aussi parce que les Français ne voulaient pas de ce foutoir.
Non, mais Monsieur Truchot, vous avez toujours tendance à passer d'un côté puis d'un autre. Pire qu'une girouette.
Mais parce que moi, je suis pas un militant comme vous. Moi, j'essaie de voir factuellement les choses, Maxime.
J'ai pas ma carte dans un parti,
Maxime.
Sur votre antenne, tout ce qui est négatif, ça vient de chez LFI. Donc, ne me dites pas que.
Là, c'est Garrido qui dit que ça va pas.
C'est très bien sans Truchot, les LFI.
Comme pour une fois, il y a quelqu'un de chez LFI qui se rebelle, mais là, ça va.
Il y a François Ruffin, visiblement, il n'est pas d'accord.
Les exemples que vous donnez, Maxime, les gens, ils n'ont pas été exclu 4 mois pour des choses dont on n'a encore pas compris quel était le fond du
discours à l'Assemblée. J'ai pas dit que j'étais d'accord. Je viens de vous dire le contraire. Je pars d'un principe que dans un parti.
Donc on est d'accord.
On n'est pas d'accord parce que c'est pas votre position quand il s'agit des autres.
J'ai dit que quand on m'explique à l'antenne, c'est quoi ma position.
Sur des autres personnes, ils verront que votre discours était complètement différent.
Je comprends pas, donnez pas d'exemple concret.
On a un parti, il y a une ligne, il faut s'y tenir, d'accord? Donc arrêtez, s'il vous plaît, votre cinéma. Les gens vous écoutent, donc ils voient bien à quel point vous retournez votre veste.
Mais je retourne pas ma veste du tout.
Pour la répondre à la question, oui, effectivement, elle a le droit
de
prendre 4 mois pour moi, c'est pas normal, parce que effectivement, elle a le droit de dire ce qu'elle a à dire.
Donc vous êtes d'accord avec Olivier, alors.
Si ça correspond à la demande de ses électeurs. D'accord.
Et alors, Maxime, vous êtes dans quelle tendance, vous, LFI, là? Vous êtes ruffiniste, social-libéral, social-démocrate plutôt? Vous êtes garridiste, mélenchoniste?
Moi, je vais vous dire, je suis ce que vous n'avez jamais compris chez les gens de gauche. C'est-à-dire que moi, contrairement aux gens de droite, comme vous, qui adorez avoir une personne...
Mais là, LFI, c'est pas toute la gauche, hein.
Non, nous, la différence, c'est que vous n'avez pas compris que Mélenchon, alors effectivement, son discours intelligent, excellent, etc. Je l'aime bien, mais je sais aussi reconnaître ses mauvais côtés. Par contre, ce qui m'intéresse chez Mélenchon, c'est pas Mélenchon. Je suis pas un électeur de droite, c'est pas Sarkozy ou Monsieur Macron, etc. Non, c'est son programme. Vous voyez, c'est ça la différence entre un électeur de droite et de gauche. À gauche, on cherche un programme, pas un homme providentiel. Vous voyez ? Donc, vous pourrez lui taper sur la tête tous les jours de l'année.
Pourquoi vous êtes méprisant, Maxime ?
Quand l'instigateur du programme, ça devient un despote, c'est quand même compliqué à suivre.
Maxime, avec beaucoup de respect, le programme de Mélenchon, s'il est appliqué en France... sera ce qu'on appelle en cessation de paiement très très vite.
Dans tous les cas, Maxime, la discussion va continuer. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Alors, est-ce qu'on peut être insoumis chez les insoumis? Mais Mourad est perdu, lui. C'est parce que c'est quoi être de gauche aujourd'hui?
Pour Maxime, c'est uniquement être LFI, si j'ai bien compris, parce que tous les autres sont à droite.
Donc on va continuer d'en discuter avec les GG, avec les grandes gueules.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, avec Mourad Boudjelal, qui est le éditeur de bande dessinée.
Triple champion d'Europe, tu pourrais quand même le préciser, de temps en temps, ça flatte mon égo, ça me fait du bien. Voilà.
À l'époque, il y avait une grande équipe.
Ça t'a pas fait.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Quand il était à la tête du RCT.
Affirmatif. Et champion de France.
Et champion de France aussi. Un seul.
Eh ouais. Ben, c'est, ne me branchez pas là-dessus parce que je vais partir sur les arbitres et. Ça pourrait durer longtemps.
Et on se rappelle de l'expression.
Comme quoi, en rugby, quand on perd, c'est toujours la faute de l'arbitre, parce qu'on a dit ça pour le quart de finale.
Oui, mais c'est vrai, là. Là, c'était vrai. Puis moi aussi, c'était vrai. Mais bon, c'est pas grave. Allez.
Et est-ce que Johnny Wilkinson est encore dans le coin?
Comment?
Wilkinson, est-ce qu'il habite encore dans le.
Non, tu parles?
Non, il est en.
Johnny Wilkinson. C'est un joueur de rugby, Johnny Wilkinson.
Un très grand joueur.
Et bien, tout le monde ne suit pas le rugby.
On va revenir à notre monde discussion, que le PSG. Parce que la politique, tout le monde entend parler de ce qui se passe chez les Insoumis en ce moment, qui plus est, avec la suspension à 4 mois de Raquel Garrido, la députée. Alors, est-ce qu'on peut être insoumis chez les Insoumis? Question que l'on pose à Nasser aussi des Hauts-de-Seine. Bonjour Nasser.
Oui, bonjour.
Fonctionnaire. Alors, qu'est-ce que vous en dites, Nasser?
Alors, moi, pour moi, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure à un de votre collègue. Je considère que ça, ce genre de problème qu'on peut avoir avec Raquel Garrido, ça existe dans tous les partis politiques. Ça serait de se mentir. On est en train de perdre toute une polémique parce que ça concerne la France insoumise. Et on sait que la France insoumise est devenue à la mode en ce moment de les critiquer parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et moi, je considère que en faire une polémique, voilà, moi, j'étais à la France insoumise, hein, pour vous dire. Je suis un ancien adhérent de la France insoumise. J'ai quitté le.
Pourquoi vous l'avez quitté?
Parce que c'est un choix personnel. Mais
j'imagine, mais pourquoi? Hein,
si demain Mélenchon se présentait, je serais, je pense, prêt à voter pour lui. Parce que j'adhère à ce qu'il dit.
C'est la gauche, la vraie aujourd'hui, c'est celle de Mélenchon.
Alors,
et des Insoumis.
C'est une question de vraie gauche ou pas. C'est ce qu'il défend, c'est ce qu'il dit. Et à chaque fois, quand on est critique sur une chose, où on n'est pas forcément d'accord avec l'opinion politique ou médiatique, on est considéré soit comme des antisémites, soit comme des anti-flics. Soit des ceci, alors qu'on pourrait avoir un choix.
Mais vous avez
personnel.
Compris pourquoi Raquel Garrido était sanctionnée?
Alors, je sais, parce qu'elle a été très critique envers la direction politique de la France insoumise. Mais ça existe partout, même au RN.
Bah oui, et du coup, vous dites, on en fait toute une polémique, on monte en épingle. Mais, mais c'est bien d'abord la France insoumise qui en fait une polémique. Parce que ça existe dans les autres partis, ils n'en font pas un tel point. Il n'y a pas 40 jours de suspension. Il n'y a pas 4 mois de suspension.
Vous êtes en train de découvrir que la France insoumise, c'est pas une grande famille où ils se font tous des bisous, quoi, c'est tout.
Alors, sachez une chose, moi, je ne suis pas forcément fan des partis politiques en général. Je suis plutôt fan de ce qu'on défend au quotidien. Ça veut dire les échanges politiques ou tout simplement les positions politiques. Moi, le reste après, c'est tellement compliqué d'adhérer à tout ce qui se passe au sein des partis politiques. Je défends le programme. Il y a un auditeur qui est passé juste avant.
Oui,
je suis d'accord avec lui quand il dit que la priorité c'est le programme politique. C'est
Vous savez, quand il faut toujours des gens pour porter le programme et l'appliquer, ça marche.
Mais il y en a qui le portent bien, d'autres qui le portent beaucoup moins bien.
Donc, à part Jean-Luc Mélenchon, personne d'autre chez les Insoumis, selon vous?
À l'heure où je vous parle, on n'a pas de réelle personne qui pourrait être à la hauteur.
Donc vous dites un peu ce que disait Jean-Baptiste.
Il y a Ruffin qui pointe le bout de son nez, quand même.
Soyons réalistes. Aujourd'hui, on n'a pas de leader réel après Mélenchon. Et ça, c'est l'erreur de la France.
C'est quand même aussi, Nasser, un parti qui existe par l'outrance verbale, quoi. C'est quand même assez, vous dites qu'il y a personne pour porter le programme. Moi, je pense qu'un mec comme Ruffin, il bosse peut-être autant que les autres, mais on l'entend moins. On l'entend moins parce qu'il est pas dans l'outrance verbale. C'est peut-être aussi ça la différence, quoi.
C'est comme le Front National. C'est un parti qui existe par la souffrance économique.
Allez-y.
Exactement. Moi, je suis plutôt sur le deuxième avis. C'est qu'il y a une souffrance économique, mais Ruffin, moi je prends l'exemple, je suis pas forcément fan. Alors il peut être très bien.
Mais il est sincère, il est totalement sincère dans sa démarche, plus que Mélenchon, je parle.
Mais face à des politiques qui ont les dents longues, c'est un peu compliqué pour qu'ils se défendent.
Oui, mais par exemple, ce qui est intéressant, chez les personnalités des Insoumis, aujourd'hui, quelles sont celles où les députés, voyez, qui vous dites quand il prend la parole ou quand elle prend la parole, ça j'aime, il y a de l'agnac, on y va.
Oui, exemple.
Il y a Ruffin.
Qui vous pouvez me citer, Nasser?
À l'heure actuelle, il y a une personne comme Manuel Bompard qui peut être aussi à la hauteur.
Voilà.
Ça c'est une réalité puisque à chaque fois.
Ouais, c'est son fidèle portefeuille,
bien sûr. Qui tient la route.
Oui.
Mélenchon. On peut être critique, il est encore d'actualité, même si on n'est pas, même s'il est âgé, aujourd'hui on n'a pas d'autres personnes qui peuvent prendre le relais de ce que Mélenchon a fait précédemment.
D'accord.
Et Adam Obono.
Obono, c'est un peu bon. Après Obono, c'est moi, je Daniel Obono, je vais pas être critique.
Mais il faut un peu de carrure quand même là.
Mais je considère qu'elle n'est pas forcément à la hauteur par rapport aux autres que j'ai présentées.
Non, néanmoins, Ruffin, non. Moi je veux bien que Jean-Luc Mélenchon soit formidable, mais depuis qu'il est le leader de la gauche est faible et la gauche ne fait pas suffisamment de voix pour revenir au pouvoir.
Il aurait peut-être s'il y a pas Roussel, il est au second tour.
Non, mais Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais
il est pas. François Mitterrand. Après, tu peux me répliquer s'il n'y a pas Zemmour, Marine Le Pen ne fait plus aussi au premier tour.
François Mitterrand en 80 est élu. Il y avait un candidat communiste qui faisait 15%. Il passe le premier tour et gagne le deuxième. Quand François Hollande est élu, je prends là où quand la gauche a gagné. Quand la gauche a gagné, elle est beaucoup plus haute que là où Mélenchon l'a mis. Aujourd'hui, avec Mélenchon, la gauche s'est rétrécie. C'est d'ailleurs pas, c'est pas moi, je suis pas le seul à le dire, hein, des gens comme Bernard Cazeneuve, etc. le disent.
François Hollande,
c'est une impasse.
François Hollande, il est élu parce qu'on vote contre.
Non, mais c'est bien pour faire, pour faire à l'Assemblée 80 ou je sais plus combien ils sont à l'Assemblée. Mais ça fait un groupe minoritaire et ça fait pas une majorité.
Ça fait un groupe hétéroclite.
On est quand même d'accord que même si ce n'est pas souhaitable qu'ils accèdent au pouvoir, il est important dans un pays comme la France que la voix de la France insoumise se fasse entendre. Parce qu'il y a des espaces économiques, il est important qu'ils aient une place importante dans l'opposition.
Mais si tu es de gauche,
ça veut dire qu'ils gueulent et on les entend pas.
Si tu es de gauche, j'ai envie que la gauche revienne au pouvoir. Et pour l'instant, la stratégie Mélenchon, je vous rappelle quand même qu'il a été trois fois candidat à la présidentielle.
Il n'est jamais arrivé à revenir. Il passe pas loin, mais il gagne jamais.
Là, on a avec Maxime et notre ami qui nous disent que Mélenchon, il est formidable. Mais je suis désolé, pour l'instant, sa stratégie est perdante. C'est un loser. Il a perdu trois fois
et Marine Le Pen aussi,
il fait des bons scores, mais quand tu es politique c'est pour arriver au pouvoir, c'est pas simplement pour faire un bon score.
Je te dis aussi qu'elle ne sera jamais président de la République.
La gauche a gouverné ce pays, elle a pour ambition de revenir au pouvoir.
Je suis même pas sûr.
Hollande, il était pas à gauche.
Alors on va écouter Jérôme, bonjour.
Bonjour
Jérôme. Alors est-ce qu'on peut être insoumis chez les insoumis? Alors
moi je suis un petit peu partagé. C'est comme j'avais dit sur le mail que j'ai envoyé, j'ai repris la phrase de Chevènement qui disait qu'à Missy, un ministre, ça ferme sa gueule, sinon ça démissionne. Eh bien je trouve que c'est un petit peu la même chose. C'est Raquel Garrido, en fait, n'est pas contente, elle démissionne. Moi je pense que les insoumis, c'est pas du tout, c'est plutôt des adversaires un petit peu politiques. Mais je trouve que là, ils ont un peu raison. Si effectivement elle n'est pas contente, eh ben elle peut changer, déjà pour commencer. Ouais. Et c'est un peu comme si dans une équipe de rugby, vous avez un joueur qui disait depuis un an, le problème c'est le capitaine.
On le change parfois le sélectionneur. On change le sélectionneur quand il n'est pas bon.
Effectivement, mais à ce moment-là, apparemment, d'après, si j'ai bien compris, la majorité des LFI veulent que ce soit Mélenchon qui reste. Sinon, il y a
rien. On ne sait pas.
Je ne suis pas sûr.
Vous voyez, les électeurs, je trouve qu'il y a quand même une certaine forme de loyauté quand même à avoir envers sa famille politique. Et là, si vraiment c'est vraiment le problème, qu'elle s'en aille et qu'elle aille voir quelqu'un d'autre qui est mieux. Vous voyez, je suis un peu.
Non, mais Jérôme, on peut être loyal dans. On peut être loyal dans le débat et y compris dans les désaccords. On peut affronter des désaccords. C'est ça en politique. Moi, je pense que le problème, il est tout inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des partis politiques qui tiennent sur des noms et des individualités. C'est vrai, le macronisme, oui. C'est Macron. LFI, l'extrême gauche, c'est Mélenchon. Le seul qui a réussi à trouver pour l'instant un héritier, c'est Le Pen avec Bardella, qui a réussi à s'imposer comme étant un des grands barons de son parti.
Macron, il a peut-être Gabriel Attal comme héritier.
Non, mais je crois pour l'instant que ça n'existe pas.
Si j'ose dire, c'est le Bardella de Macron.
Non, mais je pense que la structure aujourd'hui, la structure du non-cumul des mandats, du fait de ne plus avoir des partis dans lesquels vivent la vie des idées, je pense que structurellement, ça empêche les grands barons d'émerger, des grands barons politiques, et que quand on n'a plus de grands barons politiques, on ne supporte plus la tête qui dépasse, et donc Garrido se fait et quelque sorte
en c'est au sorte de ça, je pense que si moi je pense qu'elle est
Mélenchon c'est le syndrome du Parti socialiste qui l'anime toujours aussi si tu veux.
Il veut pas de courant.
Il veut pas de courant parce que il s'était fait baiser, pardon pour l'expression, en 2000
des révélations
lors d'un congrès, il s'était fait blouser par François Hollande. Donc il veut pas revivre ça.
C'est vrai.
Dérapage. Tu vois.
Mais à l'époque il y avait des grands barons. À l'époque il y avait du cumul des mandats, il y avait du courant.
Donc si tu veux aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? À l'époque, au Parti socialiste, on suspendait pas. Mais souviens-toi, même quand ça trichait à ciel ouvert, dans les congrès,
celle qui gagnait, c'est celle qui avait le plus triché. Voilà,
Martine Aubry, c'est les plus grosses chaussettes. Et donc si tu veux aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il dit pas de courant, ça se reproduit pas. Tu critiques. Mais après,
on est entré dans le cul. Je vais soumettre à votre expertise une idée, c'est que est-ce que l'affaire Quatennens a pas déstructuré ce parti aussi? Parce que Quatennens c'était quand même comme le fils spirituel désigné. Et est-ce que l'affaire Quatennens, ça a pas réveillé les deuxième et troisième couteaux pour prendre le pouvoir à l'intérieur du parti?
Ce qui a déstructuré la gauche, c'est celui qui était programmé pour être président et représenter la gauche. Il s'appelle DSK et voilà.
Et un soir à New York, non, tout s'est écroulé, quoi. Voilà.
Sur LFI,
il est programmé pour faire deux mandats et représenter la gauche.
Ça ne choque ni Nasser, ni Maxime, que Garrido soit sanctionné autant que Katniss qui a giflé sa femme.
Ça, c'est quand même terrible.
Donc, c'est-à-dire, dénigrer. En plus, Garrido, elle est plutôt sur le fond. Elle dit, attention, il y a des trucs. Donc, on a le droit de pas être d'accord tout à fait ce que dit chef, mais t'es autant sanctionné que quelqu'un qui a frappé sa femme. Excusez-moi, mais comme message que t'envoies à la société.
Pourri.
Il faudrait voir si Katniss met une gifle à Garrido.
En fait, je voulais juste simplement rajouter qu'effectivement, moi, si Jean-Luc Mélenchon est le problème, mais derrière, vous mettez qui? Parce qu'il a quand même le mérite, au moins, entre guillemets.
Des gens qui gagnent.
Mais tout le monde d'accord. Oui, mais les gens qui gagnent, c'est qui?
On verra. On n'a pas.
C'est
Ruffin. On ne sait pas, mais pour l'instant, c'est que lui, il perd. Lui, on sait qu'il perd, Mélenchon.
Et les autres aussi.
Oui, bien sûr.
Ils sont plus bas.
Aujourd'hui,
Ruffin est le seul, pour moi, il est le seul LFI qui soit pas un acteur.
Parce que
on ne l'aime pas. Le mec qui est de la gauche, ça démarche. Voilà. Les autres sont des acteurs.
Parce que la gauche ne reviendra pas avec un insoumis au pouvoir. La gauche reviendra avec une gauche plus modérée.
Ruffin peut faire une primaire avec Bernard Cazeneuve. Il a plus à voir avec Cazeneuve aujourd'hui qu'avec Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je salue cette évolution, mais je crois que c'est absolument incompatible avec l'électorat insoumis.
Merci à Jérôme, Nasser et Max et Maxime, pardon, d'avoir été avec nous. Alors, on a posé la question, peut-on être insoumis chez les insoumis? Oui ou non? Où en est-on? On va regarder. C'est un non à 64,9%.
Mais pas que chez les insoumis, je pense qu'on aurait eu
65%. 90-10. Dans un instant, nouveau sujet de discussion avec les jeux, avec les grandes gueules, et on vous attend pour réagir au 32-16. On va revenir sur le Sénat qui a adopté la suppression de l'aide médicale d'État pour les personnes en situation irrégulière. Alors, pour ou contre l'aide médicale d'État? Pour, dit Mourad. L'aide médicale d'État, faut revoir ça. Didier, Olivier et Jean-Baptiste?
Non, moi je suis avec Mourad.
On est pour la conserver, nous.
On est pour la conserver.
J'ai bien compris. Pour la conserver, alors, tandis que Didier, Olivier.
On est l'âme sociale au progressiste.
Bah, nous, on est surtout des humanistes. On a affaire à des gens qui ont pas de cœur, mais.
Exactement.
Tout de suite, on va gagner, Mourad.
RMC. L'après-midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On continue de discuter avec vous, bien sûr, au 32-16, avec Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, avec Mourad Boudjella, l'éditeur de bande dessinée, et avec Jean-Baptiste Djebari, l'ancien ministre des Transports. Avant de lancer le GG, c'était match, j'ai toujours les 60 000 euros. Hein. N'oubliez pas, c'est vendredi. Il faut vous inscrire pour être tiré au sort dès que vous entendez l'alarme du coffre. Eh bien, vous envoyez coffre par SMS au 7-32-16. Vous êtes tiré au sort, d'ores et déjà, vous gagnez 5 000 euros. Après, libre à vous de les remettre en jeu et de tenter de gagner 12 fois plus, 60 000 euros.
Combien ?
60 000 euros. Mais ça, c'est à vous de jouer, à vous de gagner. Faut pas vous priver. Allez, on y va pour le GG.
Net
d'info. Match.
Net d'info.
RMC. GG, 7 et match.
Deuxième jour d'examen du projet de loi immigration, le Sénat a supprimé l'aide médicale d'État, ce que l'on appelle l'AME, qui permet aux étrangers à situation régulière de bénéficier d'un accès aux soins. Alors c'est vrai que ça provoque la polémique, il faut dire que l'AME, l'aide médicale d'État, elle permet une couverture intégrale des frais de santé accordés aux étrangers
en situation irrégulière.
Le dire. Elle est attribuée pour un an, après demande sur dossier, sous condition de résidence et de ressources. Les dépenses, plus €1 milliard, et parmi ceux qui estime qu'aujourd'hui il faut la supprimer ou tout du moins la revoir, ceux qui disent c'est un appel d'air, ça devient du tourisme médical, l'aide médicale d'État. Alors on la garde, on la supprime pour la garder, Jean-Baptiste Djebari et Mourad Boudjellal. Pour la supprimer ou tout du moins la revoir,
les salauds,
Giraud,
les salauds,
Olivier Truchot,
les contribuables plutôt, ceux qui fraudent le fisc.
Alors attendez, le match n'est pas lancé.
Plus vous allez nous insulter, plus on va gagner le match. Oui. Continuez. Hein.
Donc, non, mais le match, on va le perdre, mais on va se battre et on va être digne.
C'est au 32-16 que ça se passe.
Nous représentons une cause digne, contrairement à vous.
On peut faire la mienne.
Voilà. Et on sortira la tête haute.
Vous êtes du côté des fraudeurs.
Voilà. Attention.
On sortira la tête haute. On va en parler.
Moi,
parce que je vais peut-être faire des révélations sur toi, Olivier.
Tu as la minute. C'est parti.
Non, c'est Jean-Baptiste.
Ah non, Jean-Baptiste, vas-y.
La passe à l'aile. Trois éléments. D'abord, effectivement, la parole est aux humanistes. D'abord, je reviens sur ce que tu as dit, Alain. C'est pas la suppression de l'AME. On transforme l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence au Sénat avec une majorité de droite, sachant que à l'Assemblée nationale, d'abord, il y a toujours un dispositif qui existe et à l'Assemblée nationale, il y a une partie de la majorité présidentielle qui ne votera pas la suppression de l'AME. Donc, probablement qu'à la fin de la fin, l'AME existera encore. Ensuite, et c'est le sujet, à mon avis, la l'argument le plus fallacieux que vous aurez en face, la corrélation entre l'attractivité des migrants, y compris irréguliers, pour l'AME ne tient pas du tout. Il n'y a absolument aucune donnée, aucune étude qui corrobore le fait que l'AME, qu'à mon avis, personne connaît au sud de la Méditerranée, est un facteur d'attractivité et un contributeur important au flux migratoire de la France. Et ensuite, troisième élément, je pense que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Si le vrai sujet, c'est la régulation de l'immigration, alors les vraies mesures, c'est des mesures du type restriction du regroupement familial, enfin des choses plus substantielles. Donc je pense qu'en
c'est pas
ce faisant,
ça de supprimer le regroupement familial.
Ce faisant, à mon avis, cette suppression faciale, cet acte politicien qui consiste à supprimer comme ça pour un temps, ne résout rien des sujets de santé publique et ne résout absolument rien de la politique ou de la régulation de la politique migratoire de la France.
Didier.
C'est long, mais c'est complet.
Laisse les cracher. Alors,
ce que j'ai compris contrairement à ce que nous a balancé Jean-Baptiste dans la bouche, là, c'est que l'aide, aujourd'hui, l'évolution, elle est nécessaire parce que, à un moment donné, le tourisme qui consiste à venir 3 mois en France, pour te faire repérer de la cataracte, de la hanche. Alors, et où tu te trompes, c'est pas des gens qui viennent du sud de la Méditerranée, c'est des gens qui viennent d'Europe de l'Est. Oui. Aujourd'hui, tu vas poser avec un chirurgien, ils te disent que là où ils utilisent cette aide de l'État qu'est la solidarité nationale, parce qu'il faut rappeler quand même que tout ça, c'est payé avec nos impôts. C'est d'abord pour des gens qui viennent des pays de l'Est, quoi. Et si c'est pas connu, l'AME, comme tu dis, de l'autre côté de la Méditerranée, ça l'est sur les bords du Danube, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, le truc, il a pris une ampleur qui est telle que le contribuable français ne peut plus se permettre de faire ça et ramener ça à une aide médicale d'urgence. Pour les situations d'urgence, ça me paraît une bonne chose.
Par exemple, Didier, tu sais combien de patients sont venus faire du tourisme médical pour se faire recoller les oreilles? 35 patients.
Ouais, enfin, ça, c'est les chiffres officiels, mais par définition.
C'est les chiffres du ministère de la Santé qui, a priori, c'est quand même de quoi il parle.
Non, mais par définition, tu peux pas savoir pour combien il y a de tricheurs.
Tu peux savoir combien il y a d'actes médicaux qui sont faits, quand même.
Oui, d'accord.
Parce que pour le coup, tu ne sais pas connaître le nombre, les filières, etc. Tu peux, mais les actes médicaux qui sont réalisés en hôpitaux privés ou à l'hôpital public, tu les connais.
Moi, je comprends pas, Jean-Baptiste. Je parlais que tu es conscient, quand même, qu'on manque d'argent pour l'hôpital. Tu es conscient aussi qu'il y a beaucoup de Français qui ne trouvent pas de médecin, qui sont dans des déserts.
C'est la première chose. Il n'y a pas résolu le sujet du
Votre raisonnement, d'Olivier, c'est que quand il y a un problème, on cherche pas une solution, on cherche un responsable. Non,
exactement. Jean-Baptiste Djebbari, si on peut vous en placer une, parce que vous êtes dans le camp du bien, et c'est le principe du camp du bien, c'est que vous laissez pas les autres parler. Mais on va quand même essayer de parler, même si vous êtes dans le camp du bien. Déjà, c'est 1,2 milliard. Pour 400 000 bénéficiaires.
0,5% du budget.
Ah bah oui, parce que
0,5 ou 0,4.
Bah oui, forcément, c'est
du budget de l'État.
Dit comme ça, c'est de la rigolade.
Attends, Olivier, je vais t'expliquer après. Je vais t'expliquer après comment les 0,5 ils sont repris par l'État sans aucun problème.
Tu m'expliqueras, mais c'est quand même 1,2 milliard. Si tu me dis que c'est rien, 1,2 milliard, je pense qu'avec 1,2 milliard,
on changera d'avis.
On peut embaucher des infirmières, on peut mieux payer les médecins, on peut mieux soigner les gens. Il y a quand même beaucoup de Français qui n'ont pas de médecin, qui galèrent pour avoir une opération, on leur dit l'opération ne sera pas lieu tout de suite, etc. Et ils apprennent, et ces gens-là apprennent que en fait, je parle pas bien sûr de ceux qu'on a besoin de soigner. D'ailleurs, on les soigne déjà. Il y a aucun médecin qui va refuser.
On laisse pas mourir les gens.
Mais personne n'a dit ça.
Mais ça n'existe pas dans le pays, Mourad.
Ça n'existe pas. On est les seuls à avoir ce système-là en Europe. Mais on a peut-être raison sur les autres.
D'ailleurs, il y a des Européens qui viennent à cause de ça.
D'ailleurs, les Européens viennent profiter du système. Donc, on voit bien que c'est un système trop généreux qui profite à des gens qui n'en ont pas besoin. Il faut limiter ça à l'aide d'urgence. Il faut restreindre en fait le panier de soins parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y en a qui sont recollés les oreilles, ils sont changés les ratiches alors que vous n'avez pas besoin. Mais on parle de gens qui sont étrangers en situation régulière et qui viennent prendre finalement la place de gens qui cotisent en France et qui n'arrivent pas à avoir de médecin et à qui on dit votre opération, on la repousse de 6 mois parce qu'il n'y a pas de place dans les services. C'est ça. Et c'est pour ça que vous allez perdre ce match parce que vous êtes totalement hors sol.
Mais quand même demain tu supprimes l'aide médicale d'État ou l'aide médicale d'urgence, ça ne résout absolument. Tu as parfaitement raison.
On réduit le panier de soins et on dépense un peu moins d'argent. Et on contrôle les fraudeurs.
La description des dysfonctionnements de l'hôpital public, du soin public en France est parfaitement juste. Supprimer l'aide médicale d'État ne résout absolument rien du sujet.
Bah si, déjà on récupère de l'argent.
Et on répare
si
une injustice. C'est vécu
comme une injustice par les Français, vraiment.
Oui, mais là, tu fais
alors, Mourad, d'abord, je vous rappelle qu'on est la France et qu'on a une histoire et qu'on doit être à la hauteur de notre histoire. C'est vous ne l'êtes pas.
Est-ce qu'on est la France?
Moi, je suis désolé, Mourad. On a deuxième moyen d'être à la hauteur.
La deuxième chose qui est importante. Non.
Ah oui, on n'a plus les moyens aujourd'hui.
La deuxième chose qui est importante à savoir. Alors, OK. OK, 1 milliard.
On est la France quand ça t'arrange.
1 milliard 2. C'est les étrangers nous coûtent 1 milliard 2 sur l'AME. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec un étranger en situation irrégulière qui a une maladie contagieuse? On ne le soigne pas?
Mais si, les soignants.
Mais si, les soignants. Dans la RMU, les soignants vont être soignés. Parce que le coût de ne pas le soigner coûtera beaucoup plus cher.
C'est ça ton argument?
C'est qui va répondre.
Mais c'est ça ton argument?
Non, non.
Mais parce qu'il est soigné.
Alors, maintenant, bon argument.
Hors sujet.
Non, mais ça, c'est vous, hors sujet.
Il est soigné.
L'argument économique. Je te rappelle quand même que lorsque des personnes sont salariées, alors je parle d'étrangers, les étrangers aujourd'hui, lorsqu'ils travaillent en France, ils cotisent pour la retraite, ils cotisent pour la maladie, d'accord ? Et ils cotisent.
Mais non, parce qu'on ne parle pas de ça non plus.
Non, non. C'est une caisse, ils sont assujettis aux mêmes cotisations.
Mais c'est pas qu'on parle pas de ça.
C'est pas terminer mon raisonnement, si tu me laisses pas terminer, je vais y arriver.
T'inquiète pas. Mais on parle d'étrangers en situation régulière qui ne cotisent pas.
Aujourd'hui, il y a l'immigration, en fait. Nous, on parle de santé, mais il parle d'immigration. Oui, oui. C'est ce sujet.
Aujourd'hui, ces gens-là cotisent. Ils cotisent pour la retraite. Moi, j'ai des joueurs étrangers qui ont cotisé pour la retraite et qui en profiteront jamais. Parce qu'ils avaient très haut salaire et ils ont cotisé des sommes. On a cotisé des sommes exorbitantes et au bout de 2 ans, ils se sont barrés. La retraite en France, ils la prendront jamais.
D'accord.
Est-ce que ces sommes, à un moment donné, on dit pas, tiens, est-ce que peut-être que les étrangers devraient pas cotiser pour une retraite qu'ils ne prendront jamais? Ces sommes, ça représente beaucoup plus que les 0,5% de l'AME. Mais là, ça dérange personne.
Donc, c'est un investissement, toi.
C'est de l'humanité. Ça me paraît. Oui. On est la France. Et maintenant, si vous voulez faire des économies, si vous êtes un peu humain, allez les faire ailleurs que là où on soigne les gens. Parce qu'il y en a plein d'économies à faire. Mais allez les faire ailleurs.
C'est toujours l'argument.
C'est une réalité.
On fait jamais d'économies parce qu'il y en a toujours ailleurs à faire.
Toi, si j'ai bien compris, tout est statistique. Moi, tout est humain. C'est ce qui nous différencie.
Et Mourad, je crois quand même que le système, il est aussi engorgé aujourd'hui, et qu'à un moment donné, là où tu peux décharger le mammouth, ça va lui faire du bien, quoi. Parce que dans l'aide médicale aujourd'hui, il y a quand même des gens qui prennent la place d'autres gens parce qu'ils viennent.
Pourquoi vous opposez sans arrêt? Le problème, il n'est pas qu'il y a des gens qui prennent la place d'autres gens. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de médecins.
Ah, oui.
On n'a pas assez de médecins.
D'accord.
Et si on n'a pas assez de médecins, c'est parce qu'il y a des gens qui prennent la place d'autres gens.
C'est un budget. C'est un budget responsable. Toi, tu m'expliques qu'il faut augmenter les recettes, mais tu peux aussi limiter les dépenses, Mourad.
C'est la gestion du faible.
Ça conduit quand même au même endroit.
Limiter les dépenses, c'est facile. Créer des richesses, c'est beaucoup plus dur. Créer des médecins, c'est beaucoup plus dur que dire allez, on va arrêter avec les étrangers, ça va libérer les richesses.
Vous pensez que vous allez résoudre les problèmes en optimisant le système, alors que c'est le système qui a un problème.
Et bien sûr, moi je pense.
Alors on fait quoi aujourd'hui dans votre méthode? Mais comment on résout le problème dans votre méthode là? On change rien, on ne touche rien, mais il se passe rien.
T'énerve pas parce qu'ils vont perdre de toute façon.
Ils sont totalement. Et accessoirement, c'est moi ici qui paye le plus d'impôts et que le plus affecté par la ME. Et pourtant, je suis pour.
Mais parce que même en payant beaucoup d'impôts, il te reste beaucoup d'argent.
On va regarder justement pour ou contre l'aide médicale d'État. On la garde, on la réforme, on la supprime.
35%,
une équipe au-dessus de 20, c'est une victoire, je suis pas sûr qu'on y soit.
Une équipe dit, il faut la garder, c'est Mourad et Jean-Baptiste. On réforme, il faut revoir le système. 33, Olivier. Allez, envoyez le résultat.
Allez, humiliez-nous.
21.
On est au-dessus de 20.
79-21.
Et ceux qui fraudent à la sécurité sociale, ceux qui embauchent au
pareil, c'est pareil.
On les chasse.
On les chasse.
C'est les mêmes.
On va continuer la discussion dans un instant au 32-16. Avec vous, c'est votre opinion qu'on attend.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.